Marcos, une émission proposée par Michel Niaille.
Nous avons vu jusqu'à la fois dernière la manière dont la loi de 1905 avait réglé, c'est-à-dire soumis à de nouvelles règles, les bâtiments. Nous avions vu que c'était compliqué d'une certaine manière, à la fois pour l'Église catholique, pour les autres églises, bâtiments publics ou bâtiments privés, et qu'il y avait là un énorme enjeu, évidemment. Je signale, mais nous le reverrons plus tard, qu'aujourd'hui nous avons encore un autre enjeu avec d'autres bâtiments du culte, je pense au culte musulman, et que cette question de savoir où on peut faire un culte reste encore d'actualité. Est-ce que les locaux sont publics, aujourd'hui ne le sont plus? Est-ce que les locaux sont privés? Et la plupart maintenant sont des locaux privés, et l'Église catholique hérite donc d'une situation qui lui est extrêmement favorable depuis la Révolution française. Alors aujourd'hui, on va un peu, si j'ose dire, rentrer dans le bâtiment et on va s'intéresser à ce que la loi appelle la police des cultes. Alors je voudrais, pour aborder ce titre 5 de la loi, qui comprend 5 articles, il est suivi d'ailleurs par un autre titre qui porte aussi le titre de police des cultes, expliquer qu'est-ce que ça veut dire. La police des cultes, ça n'a rien à voir avec la police au sens banal du terme dans nos conversations. Police vient du grec polis, qui veut dire la ville, ou politeia, qui veut dire la politique au sens de une action menée pour le groupe. Donc, c'est une action dans le cadre de la cité. On pourrait dire c'est grosso modo le maintien de l'ordre pour que la cité puisse vivre convenablement. Le maintien d'un ordre public sans pour autant réprimer, évidemment, toutes les possibilités de liberté qui sont accordées aux individus. C'est donc un vrai casse-tête, c'est organiser la vie collective de telle manière qu'elle ne offre pas le spectacle du désordre, qu'elle ne offre le spectacle de conflits, voire de combats entre les citoyens. C'est donc une question extrêmement délicate que d'observer ce qu'est la police des cultes. Alors, je signale que nous avons une loi antérieure à 1905, qui est la loi de 1884 sur les communes françaises, qui est encore la vieille loi traditionnelle. Et il est dit dans un des articles que le maire a la police de la commune. Alors, là aussi, il ne faut pas confondre, même s'il peut avoir à sa disposition des policiers communaux, il a la police des cultes, c'est-à-dire qu'il doit réglementer l'ordre dans sa commune pour qu'il n'y ait pas de troubles, pour qu'il n'y ait pas de désordre. Autrement dit, ici, nous allons retrouver la police des cultes, donc dans les bâtiments et même à l'extérieur des bâtiments, pour que l'exercice d'une liberté, à la fois individuelle et collective, ne trouble pas l'ordre public, ne soit pas l'occasion de désordre. Alors, évidemment, la conviction, si elle n'était qu'intérieure, elle ne poserait pas de problème. On ne peut pas rentrer dans les têtes. L'expression des religions et des convictions, c'est donc un acte social, un acte qui met en cause nos rapports avec les voisins, avec les autres. On est forcément plusieurs à vouloir faire une prière ou éventuellement une démonstration dans la rue. Et donc, il faut revenir à cette idée de la police municipale de 1884, dont le maire est le responsable. Je signale que d'ailleurs, la loi ne dit pas dans la loi communale ce qu'est la police. On sait que c'est faire respecter l'ordre, et la loi dit simplement que l'ordre, qu'est-ce que c'est? C'est l'hygiène et la salubrité, c'est la tranquillité, la sécurité, bref, l'ordre dans la commune. Et vous voyez qu'on touche là à différents aspects de la vie collective qui doivent être réglementés, c'est-à-dire soumis à des règles, pour éviter que le plus fort ne l'emporte ou qu'un groupe fasse pression et n'empêche les autres de pouvoir vivre librement. Donc, il faut prendre un certain nombre de dispositions pour que la liberté reconnue à tous ne soit pas l'occasion pour certains d'empiéter sur la liberté des autres, donc de créer des désordres et des troubles qui seraient, in fine, la négation de la liberté. Et c'est donc tout cet ensemble de dispositifs que nous allons voir par lequel la loi de 1905 déclare comment il va falloir que les pratiques collectives et sociales des religions s'organisent pour éviter d'avoir un trouble. Je signale, pour terminer sur cette introduction liminaire, que évidemment l'extrême gauche en 1905 était extrêmement sensible à cette question. Le centre gauche et même le centre droit, avec Aristide Briand, avec Jaurès, étaient d'accord qu'il fallait traiter la liberté religieuse comme les autres libertés. Mais l'extrême gauche, avec Allard, dont je vous ai déjà parlé, ou avec d'autres députés comme le fameux Émile Combes, pensait que l'expression dans l'espace public des libertés religieuses, ça allait être nécessairement l'occasion de troubles, parce que notamment la religion catholique allait vouloir prendre sa revanche et imposer dans la rue à des règles et des heures fixes des manifestations qui allaient troubler l'ordre public. Et donc, ils étaient extrêmement sensibles. Vous vous souvenez que même Allard avait demandé qu'on supprime le costume ecclésiastique dans la rue, pensant que c'était en soi un désordre d'avoir ses soutanes ou ses cornettes de bonne sœur dans la rue. Donc, il va falloir prendre des mesures à la fois efficaces et en même temps respectueuses des libertés de chacun, ce que vont faire les articles 25 jusqu'à l'article 29 dans la loi de 1905. Alors, que dit l'article 25? Je vous le cite. Les réunions pour la célébration d'un culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle sont publiques. Elles sont dispensées des formalités de l'article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l'intérêt de l'ordre public. Alors, ce texte, il peut vous paraître un peu curieux, il mérite d'être explicité. D'abord, on nous dit « les réunions pour la célébration d'un culte sont publiques ». Alors, c'est très important parce que pourtant, le culte est de nature privée. Mais les célébrations qui sont faites à l'intérieur des temples ou des églises ou aujourd'hui des mosquées ou des synagogues sont sous le sceau des réunions publiques, c'est-à-dire de réunions où tout le monde peut venir et où il n'y a pas de filtrage à l'entrée, à condition qu'on se comporte conformément aux règles du culte. Par exemple, pendant longtemps, il fallait que les femmes portent un foulard sur la tête, et je vous signale qu'en Italie, c'est encore le cas, on vérifie, si vous rentrez à Saint-Pierre de Rome, que vous avez un foulard sur la tête, si vous êtes une femme et pas une mini-jupe, et que pour les hommes, vous n'êtes pas en t-shirt trop débraillé et en short. Donc, c'est des réunions publiques et donc on est dans un bâtiment ouvert au public. Alors, ça veut dire que qui va être responsable? C'est celui qui dirige l'association, celui qui effectue le culte. Mais on peut aller plus loin. Et donc, on aurait pu imaginer que ces réunions publiques soient soumises à une règle plus sévère qui permettait de contrôler un peu mieux les réunions qui s'y tenaient. Et en effet, la loi qui est citée ici du 30 juin 1881, début de la Troisième République, prévoit que les réunions publiques sont soumises à deux systèmes possibles, soit le système de la déclaration, soit le système d'autorisation. Et vous connaissez ces deux systèmes. Le système le plus sévère, c'est le système d'autorisation. Je ne peux tenir ma réunion que si l'autorité publique, le maire ou le préfet, m'a donné une autorisation. Et si je n'ai pas l'autorisation, je ne peux pas faire ma manifestation ou ma réunion. Vous savez combien de temps en temps on voit qu'il y a des réunions ou des manifestations dans la rue qui ne sont pas autorisées. Et on voit la police qui se déploie avec des haut-parleurs et disant « Je vous rappelle que cette réunion n'est pas autorisée, elle est donc interdite et je vous demande de vous disperser ». Ça, c'est la forme la plus sévère du contrôle de l'ordre public. Mais il y a une forme moins sévère qui est le système de la déclaration. Il suffit que je déclare que je vais faire une réunion, je n'ai pas à attendre une autorisation et je tiens ma réunion. C'est le système le plus libéral et qui s'applique en général à la plupart des réunions, y compris des manifestations dans la rue. Vous êtes simplement obligé de déclarer au maire ou au préfet que tel jour, à telle heure, un certain nombre de personnes derrière des banderoles ou des drapeaux vont défiler en empruntant tel itinéraire. Et donc, cette manifestation qui est simplement déclarée est donc ipso facto légale. Sauf si le maire ou le préfet décide que l'itinéraire, le nombre de personnes, etc., pose problème et vous oblige à modifier votre itinéraire et à emprunter un itinéraire qui gênera moins la circulation, si c'est évidemment dans l'espace public. Eh bien, la loi de 1905 est très libérale puisque elle n'utilise aucune des deux manières dont la loi de 1881 avait assorti la possibilité de réunion publique. Les cultes ne sont soumis ni à déclaration. Vous imaginez si tous les dimanches il fallait déclarer la messe ou le culte ou les mariages ou les baptêmes. Donc, il n'y a pas de système d'autorisation, de déclaration et encore moins un système d'autorisation. Nous verrons que dans d'autres cas, c'est un petit peu plus compliqué, mais pour le culte, c'est donc un système extrêmement libéral. Mais la fin de l'article nous dit « Mais ces réunions sont placées sous la surveillance des autorités dans l'intérêt de l'ordre public ». Ça veut dire, d'autres articles que nous verrons plus tard nous l'indiquent, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, même à l'intérieur d'un bâtiment cultuel, au nom de la religion. Et qu'il y a des choses interdites, nous verrons lesquelles, qui peuvent être entendues, relevées et donner lieu à des poursuites judiciaires de la part du gardien de l'ordre public, le maire dans la ville, le préfet pour des grandes réunions. Vous voyez donc que cet article 25 donne la tonalité que je résume au fond d'un mot, régime extrêmement libéral pour les réunions que sont les messes, les cultes, les shabbats et autres réunions musulmanes, pour permettre de donner à la liberté religieuse toute son étendue, ce qui est quand même une garantie pour les croyants qu'ils ne seront pas brimés dans l'expression visible public de leur religion. Continuons maintenant l'étude de notre passage sur le contrôle au fond des cultes dans leur célébration derrière ce mot qu'on appelle la police des cultes. L'article 26 sonne comme un coup de trompette et je vous le lis. Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte. Alors évidemment, ça peut paraître évident. Les églises, les temples, les synagogues ou les mosquées sont des lieux pour venir faire des prières, des célébrations de toute nature, mais religieuses. Et donc, la politique est exclue. Ah oui, mais vous savez, la politique, elle peut être assez subtile. Et on peut, sans l'avouer, sans le dire, tenir des réunions politiques qui sont, par cet article 26, interdites. Alors, prenons quelques exemples. L'exemple auquel pensaient les rédacteurs de la loi en 1905, c'était l'usage que, notamment les curés, pouvaient faire d'une célébration religieuse dans un sens politique, ou des évêques, évidemment, qui étaient, vous vous en souvenez, bien dressés contre la loi de 1905, même après qu'elle ait été votée. Donc, ils pouvaient profiter, au fond, d'un prêche, d'une réunion, pour tenir des propos ouvertement politiques, de résistance à la République, de critique du gouvernement, etc. Et donc, on voyait bien que sous couvert de célébrations religieuses, on pouvait tout à fait avoir des réunions politiques. C'est interdit. Il suffit qu'il puisse y avoir une sorte de connaissance à l'oreille du maire ou du préfet que sous prétexte d'un prêche, un prêtre ou un évêque, un pasteur ou un imam a tenu des propos politiques pour que des sanctions s'appliquent. C'est très important parce qu'il peut y avoir des cas un peu intermédiaires. Je me souviens, il y a une trentaine d'années, après qu'ils aient investi le couvent des Dominicains, un groupe d'une centaine de réfugiés marocains avait investi le temple Maguelone. Et ils avaient été acceptés et hébergés pendant 8 jours. Évidemment, le préfet l'a très mal pris et a demandé l'évacuation du temple, à la fois pour des raisons sanitaires et puis à la limite politique. Et je me souviens qu'avec les personnes que le préfet appelait de bonne foi, c'était un Dominicain et c'était un de mes collègues de la faculté de droit qui vient de décéder, le professeur Constant, et moi-même. Et c'était le président de la Ligue des droits de l'homme. Nous étions les personnalités démocratiques de bonne foi. Et on a été convoqués chez le préfet qui nous a dit « Je vous avertis, il faudra libérer ce lieu du culte, ce n'est pas fait pour héberger des gens qui mangent, qui dorment, il peut y avoir des accidents, il peut y avoir des maladies, bref, et si vous ne le faites pas nous-mêmes, j'enverrai la force publique et nous évacuerons. » Ce qui d'ailleurs s'est passé. Le temple a été investi par les CRS, on a évité le matraquage, je me souviens que j'ai négocié à la grille du temple avec le Dominicain qui était mort de rire parce que le commandant de gendarmerie du CRS s'est trompé. Il s'adressait à moi en disant « Monsieur le pasteur » et « Monsieur l'aumônier ». Enfin, tout y est passé et on a fait sortir ces gens qui ont été immédiatement, à part d'eux, expulsés du territoire français. Et donc, est-ce que c'était une réunion politique ? Est-ce que c'était un usage politique interdit de la part de l'Église? Alors, vous savez qu'il y a une vieille idée qui est ressortie dans ces cas-là, c'est l'idée que nous sommes un lieu d'asile. Cette vieille idée depuis le Moyen-Âge que les églises, donc les temples, pourquoi pas demain les mosquées ou les synagogues, sont des lieux où on venait chercher l'asile. C'est en fait un vieux réflexe qui date des Grecs, où quand on était poursuivi éventuellement pour un vol ou un meurtre, on pouvait aller se réfugier dans un temple où on était sain et sauf. Évidemment, dès qu'on sortait du temple, on pouvait être colleté. Et donc, les églises chrétiennes avaient repris, au fond, cette tradition que quelqu'un s'échappant des griffes du pouvoir pouvait venir se réfugier dans l'église. Et on sait comment l'église catholique, dans des temps historiques, a utilisé éventuellement cette possibilité, mais même plus récemment, et pas à son honneur, lorsque, vous vous en souvenez, quelqu'un qui avait été lié à la Gestapo et à l'occupant allemand a été condamné et a échappé à la prison pendant une vingtaine d'années en étant hébergé dans des couvents. Et puis finalement, il a été retrouvé, vous savez, c'est M. Paul Touvier, et il a été condamné par la justice. Il est mort assez rapidement parce qu'il était, je crois, malade. Mais Paul Touvier avait bénéficié, ça avait ressuscité cette idée du droit d'asile qui n'existe plus évidemment, pas simplement dans les églises, mais a fortiori dans les couvents ou dans les séminaires. Et donc les églises, et je me souviens que les bons protestants du temple Maguelone disaient « mais nous exerçons par la fraternité le droit d'asile ». Sauf que le droit d'asile n'existe plus depuis le Moyen-Âge, et donc sous couvert de droit d'asile, le préfet pouvait dire « c'est une réunion politique », parce qu'en effet, en dehors du fait qu'ils mangeaient, ils dormaient dans le temple, il y avait des réunions qui étaient politiques, de résistance à la police, qui étaient de critique du gouvernement français, de critique du gouvernement marocain. Donc, on ne pouvait pas dire que c'était des réunions de prière qui se faisaient à l'intérieur du temple Maguelone. Eh bien, c'est interdit par l'article 26. Alors, l'article 27 fait un pas de plus, si j'ose dire, dans l'expression publique du culte, non plus à l'intérieur des bâtiments, ce que nous venons de voir, mais à l'extérieur. Et l'article 27 nous dit ceci, « Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d'un culte sont réglées en conformité avec l'article 97 du Code d'administration communale. » Ah, Alors, qu'est-ce que c'est, ça? Ça, ce sont les formes les plus traditionnelles d'expression de la foi, chrétienne ou non chrétienne, peu importe, mais qui ont largement marqué notre paysage, notamment du fait de la prééminence du catholicisme, avec des cérémonies votives, avec même, vous en souvenez peut-être pour les plus anciens, les bénédictions des champs, avec les bénédictions des animaux, évidemment à l'extérieur des églises, avec évidemment des processions qui vont depuis les processions pour que les blés soient fertiles jusqu'à la procession traditionnelle en Bretagne, avec les grands pardons à Perpignan, avec la procession de la Sanque le vendredi, ou des pénitents encagoulés avec des femmes derrière en mantille qui égrènent le chapelet, traversent toute la ville et bloquent la ville pendant pratiquement une journée. Donc, des manifestations extérieures qui se traduisaient quelquefois par de l'occupation du domaine public plus stable. Je pense aux fêtes Dieu où les catholiques mettaient dans la rue des sortes de tables avec des draps blancs, avec des bougeoirs, des figurines et des statues, et donc transformaient la rue en une sorte d'église à ciel ouvert. Bon, mais tout ça est réglé par cet article 27 qui nous dit « Toutes ces manifestations extérieures doivent être conformes à l'article 97 du Code d'administration communale. » Qu'est-ce que c'est que cet article? Eh bien, c'est celui qui prévoit le maintien de l'ordre public. Autrement dit, le maire a le droit d'interdire éventuellement une procession ou une manifestation extérieure s'il estime qu'elle trouble l'ordre public. Soit qu'elle soit de nature un peu agressive, si vous bloquez la rue avec des tables, des autels, des encensoirs, bon, ben, quand même, c'est un problème parce qu'il y a des gens et des voitures qui veulent passer. Mais c'est pareil pour les processions. Je peux vous dire que dans la procession de la Sanque à Perpignan le vendredi saint, il n'y a aucune circulation automobile dans le centre de Perpignan pendant toute la journée. Et donc, on se dit, si jamais il fallait qu'une ambulance vienne, bon, elle arriverait peut-être à se frayer un chemin, mais c'est à peu près tout. Et donc, on comprend que le maire ou le préfet pour des grands rassemblements soit compétent pour dire « Non, écoutez, c'est pas possible, vous pouvez pas bloquer ». Pensons aussi à ce qui a un peu disparu aujourd'hui, sauf dans les villages, c'était les enterrements. Les enterrements se faisaient au pas du cheval qui tirait le corbillard et la rue était bloquée. On ne pouvait pas faire courir derrière le corbillard la famille en grand voile noir et les amis. Donc, on en prenait son parti à l'époque où les voitures les plus rapides, au début du siècle dernier, elles faisaient 25 à l'heure. Donc, ils pouvaient s'arrêter et attendre. Et puis, ils n'étaient pas si nombreux. Et on marchait au pas du cheval ou au pas de l'homme, tout simplement. Et donc, on voit bien que là, il y avait des traditions qui se sont perdues. Il n'y a plus aucun, sauf dans les villages, il n'y a plus aucun enterrement où on bloque la rue parce que le corbillard tiré par un cheval met trois fois plus de temps à descendre la rue que ne le ferait une automobile. Eh bien, toutes ces manifestations extérieures, traditionnelles, sont soumises à cette espèce de glaive du maire ou du préfet, responsable de l'ordre public. Il peut donc éventuellement interdire tout bonnement la manifestation ou au contraire proposer un autre itinéraire qui va moins gêner la circulation et les habitudes des uns et des autres. Et surtout, pensons à tous ceux qui ne sont pas croyants et qui se disent que c'est quand même un peu fort de café que dans une république laïque, on soit obligé de ne pas pouvoir circuler librement parce que quelques-uns maintiennent des traditions archaïques. Je me souviens, mes cousins protestants de Mazamet décidaient que le 15 août, ils ne sortaient pas dans la rue parce qu'ils ne pouvaient pas circuler en voiture et qu'il n'y avait pas de raison qu'ils soient bloqués par un hôtel avec la Vierge Marie. Et donc, ils préféraient ne pas sortir avec la voiture pour bouder dans leur maison en attendant que la célébration du 15 août soit passée. Alors, c'est très important parce que vous comprenez bien que les processions, surtout au début de ce siècle dernier, elles n'étaient pas totalement innocentes. Ces processions avec un déploiement du clergé, avec le Saint-Sacrement, avec les enfants des écoles chrétiennes, c'était quand même une manifestation de l'occupation du domaine public. C'était une manière de prendre sa revanche aussi. Vous nous avez exclus de l'ordre public général, on est sorti par la porte, on rentre par la fenêtre. Donc, il y avait un vrai enjeu à cette époque-là dans cet exercice qu'étaient les manifestations publiques. Voilà ce qu'il vous faut savoir sur cet usage non plus des locaux, mais de l'espace qui appartient à tout le monde, qui est l'espace public. Alors, article 28, et nous en aurons pratiquement terminé, article 28 qui pose aujourd'hui encore des problèmes et qui est pourtant très logique, mais vous allez le voir, qui est extrêmement intéressant. Il est interdit à l'avenir d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou des expositions. Alors, c'est un article qui est toujours intéressant aujourd'hui parce qu'il a un regain d'actualité. Donc, désormais, le patrimoine visible dans l'espace public religieux est bloqué à la date du 9 décembre 1905. Tout ce qui existait jusqu'à cette époque-là, jusque, j'allais dire, au 9 décembre minuit, est maintenu, protégé, et même s'il le faut, réparé. Mais à partir du 9 décembre minuit, il n'est plus possible pour une collectivité publique, sur ou un établissement public, sur un emplacement public, d'apposer, d'élever quelque insigne religieux que ce soit. Donc, on clarifie la situation. Nous ne sommes pas iconoclastes, nous n'allons pas faire ce que les cathares ont pu faire, et surtout les protestants, à l'égard des statues catholiques, ou les révolutionnaires en 1792, nous n'allons pas supprimer des croix, des crucifix, des saintes vierges et autres emblèmes religieux, nous les conservons, mais à partir du 9 décembre 1905, il n'est plus possible d'en créer de nouveaux. Alors, il y a une exception, évidemment, en plusieurs degrés. Évidemment, on ne peut pas empêcher, si on construit une église, que l'église comporte une croix. Donc, les nouveaux bâtiments de culte sont protégés, ce qui est logique. On ne peut pas imaginer une synagogue où on ne pourrait pas mettre sur la façade les tables de la loi, ou une mosquée où il n'y aurait pas éventuellement le croissant qui est le symbole un peu de l'islam. Donc, pour les bâtiments du culte, évidemment, même les plus récents et les plus nouveaux, on maintient la possibilité d'un décor religieux. Les cimetières, attention, c'est les tombes qui, elles, sont exclues de cette interdiction. Vous avez le droit de mettre une croix, une sainte vierge, un ange, tout ce que vous voulez sur votre tombe. Mais le cimetière lui-même, qui est communal, ne doit comporter aucun signe religieux qui, d'habitude, était une croix. Alors, ça pose des problèmes. Récemment, il y a eu une affaire dans une commune du nord de la France où le conseil municipal a décidé de réparer la croix qui était au-dessus de l'entrée du cimetière. Et quelques libres penseurs ont dit « mais pas du tout, il n'y avait pas de croix, ils viennent d'en mettre une nouvelle ». Et donc le juge a dû se demander si cette croix, c'était simplement une vieille croix qu'on avait réparée, ce qui est tout à fait normal, ou si c'était une nouvelle croix. Dans ce cas-là, il faut la détruire. Et puis, il y a éventuellement les musées ou les expositions qui sont exclus de cette interdiction. Imaginez s'il fallait dans tous les musées enlever les statues des saints et de la Vierge, les tableaux religieux. Il y a des musées qui seraient vidés de la moitié de leurs œuvres. Donc là, les expositions et les musées sont autorisés à des représentations religieuses. Mais désormais, toute autre représentation religieuse dans l'espace public est interdite. Et on voit qu'il y a des tentatives. Alors, je vous donne un exemple, je terminerai par cela parce que c'est assez croquignolé. Une petite commune de Bretagne, la Bretagne est quand même très catholique, décide d'édifier une statue en l'honneur de Jean-Paul II. Alors, ils édifient une statue au centre du village, sur le rond-point d'entrée dans le village, avec Jean-Paul II, avec un geste tout à fait paternel. évidemment, une association de libres penseurs défère cette décision au juge administratif, et le juge administratif dit « Ah ben écoutez, c'est qu'une statue d'un homme qui n'est pas que le pape, c'est aussi un défenseur de la liberté, c'est aussi une autorité morale dans le monde, comme pourrait l'être le Dalai Lama, par exemple. Donc, ce n'est pas un signe religieux au sens de la loi de 1905, et donc l'association perd son procès. » Mais voilà que la commune, enhardie par cette ouverture, décide de faire au-dessus de la statue une sorte de grand arc en béton armé avec une croix. Donc Jean-Paul II se trouve dans une espèce de logement surmonté d'une croix. Rebelote, l'association refait introduit une nouvelle action auprès du juge administratif. Et là, le juge administratif dit « Ah ben oui, là, c'est quand même, on dépasse les bornes, parce que là, c'est bien un signe religieux, une espèce d'ogive avec la croix au-dessus. Vraiment, on ne peut pas s'y tromper. » Et donc, il intime l'ordre à la mairie d'enlever cette statue ou de la détruire ou de la donner à qui il voudra, mais de l'enlever en tout cas de l'espace public. Eh bien, la commune a trouvé un petit terrain privé qui a dû être donné par un paroissien et a réédifié Jean-Paul II sous sa croix dans un petit coin qui est un petit terrain privé, un petit jardin privé, visible de tout le monde. Et donc, comment je dirais, chacun peut dire qu'il a gagné la partie. En tout cas, l'Association de libres penseurs a gagné conformément à l'article 28. Il n'y a plus de possibilité d'élever des signe religieux dans notre espace public, il est déjà lourdement balisé. Et donc, c'est important parce que cela veut dire qu'il n'y a plus de possibilité, même pour des nouvelles religions, de baliser dans l'espace public leur présence, sauf sur leur propre bâtiment religieux. Voilà, nous allons continuer la fois prochaine sur cette extériorisation du culte. Vous le voyez, prévu dans les moindres détails par la loi de 1905, toujours d'actualité. À bientôt.
Laïcos, une émission proposée par Michel Niaille.